passer directement de la louange à la parole. C'est une belle chose finalement. Est-ce que la résurrection, est-ce que c'est si important que ça? On fête le culte de Pâques, et puis bon, c'est bien de mettre la résurrection au centre. C'est l'anniversaire, c'est ça qu'on célèbre. Donc effectivement, ça semble bien. Mais est-ce que c'est si important que ça, jour après jour? Est-ce que c'est vraiment quelque chose de central? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop? Est-ce qu'on n'en fait pas un peu trop, justement parce que c'est le jour de Pâques, pour gonfler un événement? C'est que la résurrection, c'est peut-être difficile à croire, c'est certainement difficile à croire. Que quelqu'un qui soit mort puisse revenir à la vie, c'est difficile à croire. Aujourd'hui, avec la science, on explique tellement de choses qu'on a du mal à croire au miracle. Est-ce qu'on a vraiment besoin de la résurrection pour être chrétien? On a déjà la Bible, c'est une source de réflexion super intéressante qui nous permet de creuser pour acquérir une sagesse, un recul sur la vie, quelque chose qui est vraiment utile. On a l'Église, c'est un endroit agréable où on peut venir chanter, où on peut venir saluer, se faire des amis. On peut même avoir un café avant le culte, c'est sympa. Est-ce que c'est nécessaire de croire à ce truc énorme de la résurrection? Est-ce bien raisonnable au XXIe siècle de croire toujours à la résurrection? Parce que quand il y a quelque chose qui gêne, c'est la question qu'on se pose finalement. Est-ce que c'est si important? En fait, le fait qu'on soit au XXIe siècle, ça ne change pas grand-chose parce qu'au 1er siècle déjà, Paul avait besoin de répondre à la question. Au 1er siècle déjà, c'était une question pas évidente. Et nous allons lire dans l'Épître aux Corinthiens, au chapitre 15, un développement assez long. Paul justement explique pourquoi la résurrection, c'est important, ce que ça change. Alors, vous pouvez écouter la lecture, vous pouvez lire dans vos Bibles 1 Corinthiens au chapitre 15 à partir du verset 1. Frères et sœurs, je vous rappelle maintenant la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, que vous avez reçue, à laquelle vous êtes fermement attachés. C'est par elle que vous êtes sur la voie du salut si vous la retenez telle que je vous l'ai annoncée. Autrement, vous auriez cru inutilement. Je vous ai transmis avant tout cet enseignement que j'ai reçu moi-même. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il est apparu à Pierre, puis aux 12 apôtres. Ensuite, il est apparu à plus de 500 de ses disciples à la fois. La plupart d'entre eux sont encore vivants, mais quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Enfin, après eux, il m'est aussi apparu à moi, bien que je sois pareil à un avorton. Je suis en effet le moindre des apôtres. À vrai dire, je ne mérite même pas d'être appelé apôtre, car j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et la grâce qu'il m'a accordée n'a pas été inefficace. Au contraire, j'ai travaillé plus que tous les autres apôtres, non pas moi, en réalité, mais la grâce de Dieu qui agit en moi. Ainsi, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous proclamons, voilà ce que vous avez cru. Nous proclamons donc que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Comment alors quelques-uns d'entre vous disent-ils que les morts ne ressusciteront pas? Si tel est le cas, le Christ n'est pas non plus ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, nous n'avons rien à proclamer et vous n'avez rien à croire. De plus, il se trouve que nous sommes de faux témoins de Dieu, puisque nous avons certifié qu'il a ressuscité le Christ. Or, il ne l'a pas fait, s'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas. Car si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité, et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi ne mène à rien, et vous êtes encore en plein dans vos péchés. Il en résulte aussi que ceux qui sont morts en croyant au Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espérance dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. Mais, en réalité, le Christ est ressuscité d'entre les morts, en donnant ainsi la garantie que ceux qui sont morts ressusciteront également. Car de même que la mort est venue par un homme, de même la résurrection des morts vient par un homme. Tous les êtres humains meurent parce qu'ils sont liés à Adam. De même, tous recevront la vie parce qu'ils sont liés au Christ. Mais chacun a son propre rang. Le Christ le premier de tous, puis ceux qui appartiennent au Christ au moment où il viendra. Ensuite arrivera la fin. Le Christ détruira toute autorité, tout pouvoir et toute puissance spirituelle et il remettra le règne à Dieu le Père. Car il faut que le Christ règne jusqu'à ce que Dieu ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. En effet, il est écrit « Dieu lui a tout mis sous les pieds ». Mais il est clair que dans cette phrase, le mot « tout » n'inclut pas Dieu, qui soumet toutes choses au Christ. Lorsque toutes choses auront été soumises au Christ lui-même, le Fils se soumettra à Dieu qui lui aura tout soumis. Ainsi Dieu règnera parfaitement sur tout. Pensez encore au cas de ceux qui se font baptiser pour les morts. Qu'espèrent-ils obtenir? S'il est vrai que les morts ne ressuscitent pas, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Et nous-mêmes, pourquoi nous exposons-nous à tout moment au danger? Frères et sœurs, chaque jour je risque la mort, c'est vrai. Aussi vrai que je suis fier de vous dans l'union avec Jésus-Christ, notre Seigneur. À quoi m'aurait-il servi de combattre contre des bêtes sauvages à Éphèse si c'était pour des motifs purement humains? Si les morts ne ressuscitent pas, alors, comme on le dit, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Revenez à la maison comme il convient et cessez de pécher. Le dit à votre honte, certains d'entre vous ne connaissent pas Dieu. Une lecture un peu longue, pas facile à comprendre. J'ai mis jusqu'à 29, en fait, je suis allé jusqu'à 34. Comment faire pour comprendre ce texte? Moi, j'ai de la chance, j'ai 18 ans. À la maison, j'ai une fille qui passe le bac cette année, donc j'ai la chance de pouvoir faire de la philosophie avec elle. Elle est généreuse, elle partage avec moi. Et du coup, quand il y a un texte comme ça, il faut rechercher les arguments, le déroulement, essayer de les identifier et de regarder un peu le plan du raisonnement. Et c'est ce que j'ai fait, c'est ce que je vous propose. Et je vois quatre parties dans ce texte un peu long que nous avons lu. Au début, Paul rappelle la bonne nouvelle. Quelle est-elle? Il l'énonce, c'est sa thèse. Ensuite, il raisonne, si les morts ne ressuscitent pas, alors Christ non plus n'est pas ressuscité. Et il énonce des conséquences. Et ensuite, il prend l'inverse. Mais Christ est ressuscité et les morts le feront. Et il énonce aussi les conséquences et les implications. Et puis il termine avec quelques arguments supplémentaires pour appuyer la véracité de la résurrection. Pensez aussi à. Voilà. Et chacune de ces parties se décompose en sous-parties. Je propose qu'on les regarde un petit peu pour comprendre ce texte. Tout d'abord, Paul commence par rappeler la bonne nouvelle, le centre, ce qui annonce. qu'est-ce que c'est la prédication chrétienne? Et il résume la prédication chrétienne ainsi. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avait annoncé l'Écriture. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Tout est dit ici. Il y a plein d'autres choses dont on peut parler, plein d'autres choses qui sont intéressantes quand on suit Jésus et on prêche dimanche après dimanche sur différentes facettes de ce que ça implique, mais le noyau, il est là. Christ est mort pour nos péchés, il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour. Et cette bonne nouvelle, elle repose sur le témoignage de personnes qui l'ont vu, de personnes qui étaient là le jour où il était mort, qui ont vu l'épreuve de sa mort, qui l'ont vu mis au tombeau, et qui n'ont pas seulement vu le tombeau vide, mais qui l'ont vu. Et qui l'ont vu en chair et en os, pas seulement une apparition. Sandra nous a rappelé ce récit où Thomas le voit et il le touche, il est matériel. Quand Paul dit ça aux Corinthiens, certainement, ils ont vu certains de ces témoins. En particulier, Pierre, il en parle un peu plus tôt dans l'Épître aux Corinthiens, qui était connu. Ils les ont vus. Ils les connaissent. C'est du réel. Tous ces témoins qui l'ont vu après la résurrection, et Paul lui-même, qui l'a vu, pas comme les autres dans les jours qui ont suivi la résurrection, mais d'une façon particulière sur le chemin de Damas. Et Paul dit, comme un avorton, comme quelqu'un qui n'est pas né normalement, comme un prématuré, quelqu'un qui n'a pas fait tout le chemin comme les autres. Des témoins pour attester que ce message est vrai. Ensuite, Paul réfléchit si les morts ne ressuscitent pas, si on ne peut pas croire à ce miracle, alors qu'est-ce que ça implique? Ça implique que Christ non plus n'est pas ressuscité. Attention, amis corinthiens, nier la résurrection, c'est nier la résurrection de Jésus. Et si nous nions la résurrection de Jésus, alors, dit Paul, nous n'avons plus rien à proclamer. C'est ça que nous faisons en parcourant le bassin méditerranéen, annoncer que Jésus est ressuscité. La résurrection est au centre de notre message, le reste sont des à côté. Paul utilise un peu une stratégie du tout ou rien. Si vous ne prenez pas la résurrection, alors vous ne pouvez rien prendre de ce qu'on dit. Ça ne sert à rien. Il faudra que vous nous traitiez de menteurs, nous qui prêchons l'Évangile. Ça, c'est la première conséquence. Si Christ n'est pas ressuscité, alors nous n'avons rien à proclamer. Vous devez nous traiter de menteurs. La deuxième, elle vous concerne, vous. Vous êtes encore en plein dans vos péchés. Peut-être que ça nécessite une explication. Si Jésus n'est pas ressuscité, s'il est seulement mort pour mes péchés, alors malheur à moi, j'ai tué Jésus. Et la culpabilité de mes fautes, de mes péchés, est remplacée de ce que j'ai achevé le Fils de Dieu. C'est pour ça que la résurrection est aussi importante. C'est une victoire. Le Seigneur n'a pas été achevé par le poids de nos péchés. Il les a vaincus, il a vaincu le péché, il a vaincu la mort. Et je peux marcher libéré de toute culpabilité. Amis corinthiens, si vous niez la résurrection, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et vous payez encore le poids de vos fautes. Vous êtes encore sous la culpabilité. Paul conclut, si nous avons mis notre espoir dans le Christ uniquement pour cette vie, alors nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains. s'il n'y a rien derrière, si Jésus n'est pas ressuscité, nous sommes les plus à plaindre de tous les êtres humains de marcher sur cette voie. Et Paul ne reste pas là. Après avoir pris ce chemin de réflexion, si les morts ne ressuscitent pas, ça implique que Christ non plus ne ressuscite pas, il prend l'inverse. Nous affirmons, Christ est ressuscité, et comme Christ est ressuscité, les morts aussi ressusciteront. Et Paul prend le temps d'expliquer, parce que c'est difficile de croire ce qu'on ne comprend pas. Et donc, Paul veut expliquer aux Corinthiens ce que ça implique pour eux. Pourquoi c'est important que Jésus soit ressuscité? Déjà, il y a une explication théologique. La mort est venue par un homme, la vie nouvelle vient par un homme. Paul parle à des gens qui savent, qui ont été évangélisés, qui ont été enseignés. Il parle de la mort qui est venue par un homme, il parle du péché originel, de ce que Dieu avait créé le monde parfait, mais que Adam a péché. C'est ce qu'on appelle la chute. Et que depuis, tous ceux qui descendent d'Adam, tous ceux qui sont dans sa lignée, portent le poids de ce péché et sa culpabilité et sa condamnation. Alors, c'est difficile pour nous qui vivons dans une société avec une grande dimension individualiste, une grande dimension où on a notre responsabilité personnelle, c'est difficile d'accepter qu'on porte la culpabilité d'un autre. Mais rassurez-vous, dans nos vies, on se dépêche, nous aussi, de pécher pour porter notre propre culpabilité. On n'est pas tout blanc condamné à cause d'Adam. On a aussi, nous, nos erreurs dans cette lignée. Et ce que dit Paul, c'est que tout comme cette lignée est condamnée, maudite, traînant ce péché, il y a besoin d'une nouvelle lignée, restaurée, renouvelée. Et cette nouvelle lignée, elle doit partir d'un homme, elle part de Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est ressuscité, qui commence cette vie nouvelle, qui invite les hommes qui le suivent à vivre dans cette vie nouvelle. Une nouvelle humanité, se mettre dans la lignée de la vie, non pas comme on le fait dans la lignée de la mort, en péchant nous-mêmes, mais en acceptant de vivre selon Jésus, en acceptant de nous mettre sous sa seigneurie. Cette nouvelle lignée est nécessaire. Et deuxième chose que Paul explique, il explique comment ça va se passer. Pour ceux qui ont l'esprit pratique, qui se demandent comment ça se fait que les hommes ressuscitent, comment ça va se passer, comment ça se fait que ceux qui sont morts hier, avant-hier, le mois dernier, ne ressuscitent pas encore, Paul explique comment ça va se passer. Ça va se passer dans l'ordre. Christ est ressuscité d'abord. Ensuite, quand il reviendra, ceux qui lui appartiennent reviendront à la vie. Et ensuite, ce sera la fin des temps, la fin des règnes terrestres et spirituels. Ce sera le règne de Jésus. Le règne sans péché, sans ses conséquences. Christ est ressuscité. Les morts ressusciteront également. Et Christ est la garantie de ce que là se passera. Sa résurrection est la garantie que la résurrection des hommes viendra également. Enfin, Paul termine son raisonnement en présentant quelques arguments supplémentaires. Déjà, il y a ceux qui se font baptiser pour les morts. Alors, on ne sait pas bien qui sont ces personnes qui se font baptiser pour les morts. J'ai consulté quelques commentaires qui disent tous à peu près la même chose, que c'est une pratique qui devait avoir lieu à Corinthe, dont on ne sait pas grand-chose. Très certainement que Paul la réprouve, mais il la cite. Si les gens se font baptiser pour les morts, c'est bien qu'ils pensent qu'il y a quelque chose après. Et j'ai réfléchi. Comment est-ce que nous vivons aujourd'hui? Et aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui est marquant, qui est mort, il y a souvent ces cérémonies d'hommage où on voit des gens qui croient en rien, mais qui s'adressent au disparu pour lui dire un dernier mot, pour lui dire combien il ment, pour lui dire combien il va continuer. Et il s'adresse comme s'il était vivant. Et quelque part, je pense qu'on peut dire qu'il témoigne, qu'il croit que ça ne peut pas s'arrêter là. Qu'il y a une vie après la mort. Mais ce n'est pas l'argument le plus important, le plus lourd de ce que sort Paul. Il sort cet autre argument. Regardez les risques que nous prenons. Moi, ceux qui travaillent dans mon équipe, les autres apôtres, les risques, les persécutions, les coups, la mort pour certains qui se font exécuter. Paul sait de quoi il parle. Il était présent, témoin, lorsque Étienne s'est fait lapider. Si c'est un coup monté, si les disciples ont décidé d'inventer cette histoire et d'aller de vider le tombeau et de dire « il est ressuscité », il faut être quand même un peu dérangé pour risquer sa vie, être prêt à mourir pour quelque chose qu'on sait être faux. Blaise Pascal a écrit dans Les Pensées « Je ne crois que les histoires dont les témoins se font égorger. » La résurrection de Jésus-Christ, c'est une histoire où ceux qui en témoignent sont prêts à mourir pour cela. À mourir au premier siècle, et à mourir depuis et encore aujourd'hui. Voilà donc le raisonnement que Paul propose aux Corinthiens, un raisonnement un peu long, un peu ardu, mais qui recentre sur la bonne nouvelle, qui réaffirme la bonne nouvelle, que la résurrection ne peut être écarté, sinon la bonne nouvelle perd de sa saveur. La bonne nouvelle que les chrétiens transmettent depuis des siècles, c'est celle que Jésus est mort et qu'après avoir été mis au tombeau, il est ressuscité. Et que cette résurrection inaugure une vie nouvelle, donne la possibilité d'une vie nouvelle. Pas seulement une vie après la mort, mais une vie nouvelle aujourd'hui. Une vie nouvelle libérée des conséquences de ce que j'ai pu faire. Des conséquences de ce qu'on me reproche. Des conséquences de mes échecs, de mes hontes. De ce qui fait que je n'arrive pas à regarder ni Dieu, ni les autres, parce que je sais ce que j'ai fait. Parce que je sais qu'ils savent. Et pour nous, que faire de ce texte un peu long, un peu ardu, que j'ai essayé de vous expliquer, je ne sais pas si j'ai bien réussi à le faire. Que faire de cette question? Je pense que la première chose que nous pouvons faire, c'est remettre la résurrection au centre de notre foi. Et pas seulement au centre de nos cultes de Pâques, mais au centre de nos vies, jour après jour. Prenons une minute pour comprendre, pour nous rappeler qui sont les Corinthiens. Les Corinthiens, c'est une église haute en couleurs, et quand on lit tous les sujets qu'aborde Paul, on voit d'un chapitre à l'autre tout ce qu'il a leur reproché. C'est une église avec des gens qui aiment bien discuter. Ils ont ce côté intellectuel, ils aiment bien discuter entre eux, ils aiment bien discuter avec l'extérieur, ils aiment bien avoir cette présence intellectuelle, cette reconnaissance. Ils sont sages, ils aiment ça. C'est aussi un lieu qui devait être assez sympa, en tout cas, devait y avoir des amitiés, des gens qui aimaient être ensemble, puisque Paul est obligé de les freiner au moment où ils prennent des repas ensemble, parce qu'ils n'attendent pas le gars d'à côté, c'est quand même qu'ils devaient être contents de se retrouver. C'est une communauté où les cultes étaient vivants, très vivants, trop vivants, leur dit Paul, il y a besoin de cadrer un petit peu, mais je suis sûr qu'ils avaient une certaine fierté, un certain plaisir à cette exubérance. Moi, je crois que les Corinthiens, ils étaient contents dans leur église. Même si Paul pointe un grave manque d'unité, besoin de travailler l'amour entre eux pour inclure tout le monde, je pense que certains étaient contents de s'y retrouver et qu'ils étaient fiers. Je pense que c'était une église bien dans son époque, bien dans sa ville, qui pensait être pertinente intellectuellement, qui pensait être ouverte. Ils acceptent le pécheur. Une église bien intégrée, qui vit comme les autres, qui participe à la vie culturelle de sa ville. Et quand on est comme ça, bien intégré, ouvert, pertinent avec les autres, la tentation, je crois, c'est de gommer ce qui est le plus difficile, ce qui est le plus particulier dans ce qu'on a chez nous. Et pour nous, je pense que la tentation peut être la même. Parce qu'on peut être, en tant qu'Église, bien accueilli. Il y a des choses qu'on peut faire qui nous font accepter. Peut-être qu'il y a des choses, si on les met sous silence, si on n'insiste pas trop dessus, ça simplifiera les choses pour être accepté, pour être reconnu. Mais Paul nous invite à mettre la résurrection au centre de nos vies, au centre de nos cultes. Pas uniquement à Pâques, mais tous les dimanches. Je me souviens de profs qui nous ont dit à la faculté de théologie que si dans vos cultes, il y a un juif ou un musulman ou un humaniste qui vient, qui écoute et qui est d'accord avec tout, il y a un problème. La particularité de la foi chrétienne, c'est cette résurrection et elle doit être présente. Cette particularité qui dit que nous sommes pécheurs, que rien ne peut nous racheter sinon le sacrifice de Jésus, et que ce sacrifice, par la résurrection, nous donne une vie nouvelle. La deuxième application qu'on peut avoir pour nous, c'est une application, je dirais, pratique dans notre témoignage. On me pose souvent la question, comment témoigner? Je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas le don, je ne sais pas quoi dire aux autres, à ceux qui ne croient pas, je ne sais pas comment partager ma foi. Je pense que nous pouvons mettre la résurrection au centre de ce que nous disons aux autres. Nous pouvons l'annoncer. Simplement, Jésus est ressuscité. Il est mort pour nos péchés, mis au tombeau, ressuscité le troisième jour. Nous pouvons utiliser des arguments apologétiques tirés de ce que Paul nous dit. Cet argument de ce que sans la résurrection, alors la Bible n'a aucune valeur. Ou celui des témoins qui sont prêts à mourir. Avec la citation de Pascal, qui dit qu'il ne croit que des histoires dont les témoins sont prêts à se faire égorger. Mais je crois surtout que nous devons mettre en avant ce que ça change dans nos vies. Ce que ça change, c'est que nous avons une espérance. Une espérance que cette vie qui n'est pas drôle tous les jours, cette vie qui est remplie d'inquiétudes, où on ne sait pas ce dont demain sera fait. On peut s'inquiéter pour des guerres, pour la façon dont notre pays peut tourner politiquement, ou les voisins, ou la violence dans notre ville, ou que sais-je. Cette vie ne durera pas. Jésus reviendra et en proposera, en établira une nouvelle. débarrassés du péché. Nous avons cette espérance et également aujourd'hui, nous ne vivons plus sous la culpabilité du péché. Nous n'avons plus à la porter, à nous sentir écrasés, coupables, éloignés de Dieu. Nous sommes réconciliés, nous avons une nouvelle relation avec notre Dieu, une nouvelle relation qui commence aujourd'hui, et nous le savons parce que Jésus est ressuscité. Il n'est pas resté dans le tombeau comme une défaite. Il commence la vie nouvelle. Je pense que lorsque nous témoignons, nous pouvons dire cela. Que notre vie a été transformée, même si tout ne se voit pas, même si nous sommes encore dans l'attente, et que nous attendons le jour où tout sera parfait dans ce monde. Et puis la troisième application que j'aimerais proposer, c'est une application plus existentielle. Posez la question, et toi? Et vous? Est-ce que la résurrection, elle change quelque chose pour vous? Est-ce que vous êtes dans cette lignée de Jésus? En tout cas, vous avez la possibilité de vous placer dans cette lignée de Jésus, de bénéficier de cette vie nouvelle qui a déjà commencé, d'être débarrassé de la culpabilité, de bénéficier de la réconciliation. Je pense que je ne peux pas ne pas lancer cette invitation. Et si vous voulez en parler, échanger sur le sujet, prendre cette voie, n'hésitez pas. Venez me voir, venez voir Michael ou Philippe. Nous prendrons le temps d'en parler avec vous. Le Christ est mort pour nos péchés, comme l'avaient annoncé les Écritures. Il a été mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour, comme l'avaient annoncé les Écritures. Je vous invite à prendre un temps de silence. Ensuite, je prierai.